Nous lisons dans Exode au chapitre 2. Exode chapitre 2 à partir du verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Moi, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. » Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Nous allons au verset 16. « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, « Je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. » Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. » Voilà le texte d'aujourd'hui. C'est Dieu qui veut libérer les enfants d'Israël parce qu'il a entendu leurs cris en Égypte. Ils souffraient beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons parler du fait que Dieu utilise sa main puissante pour nous libérer. Mais nous avons constaté deux idées qui sont revenues. Déjà au verset 12. Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc au verset 12 et au verset 18, ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Donc il y a 2 idées majeures qui paraissent là. C'est que Dieu libère les enfants d'Israël pour le servir. Donc il les délivre pour qu'ils puissent le servir. Il ne les délivre pas pour qu'ils soient juste délivrés comme ça. C'est pour le servir. Et j'ai remarqué une chose. Beaucoup de chrétiens ne sont pas totalement délivrés parce qu'ils ne servent pas Dieu. Il y a des gens qui ont subi une sorte de délivrance, de libération ponctuelle quand ils se sont convertis. Mais ce n'est pas parti loin. Parce qu'en réalité, ils ne servent pas Dieu. Ils n'entrent pas dans l'objectif pour lequel Dieu les a délivrés, Dieu nous a délivrés. Et nous voyons aussi dans Matthieu, au chapitre 12, Jésus dit, quand on chasse un esprit mauvais, il revient voir. Il va revenir après, voir sa maison, où il était avant. Et si la maison n'est pas occupée, s'il n'y a pas le service de Dieu dans cette maison-là, il revient avec cet esprit plus fort qu'avant. Et plus nombreux, donc 7 autres esprits, et la situation de la personne devient plus grave qu'avant. Donc, quand on est libéré par le Seigneur, on est sauvé par le Seigneur, c'est pour l'adorer, pour le servir. Et que chacun s'examine pour voir si vraiment il sert Dieu. Est-ce qu'il vit pour Dieu? Parce que servir Dieu, ce n'est pas être forcément pasteur. Servir Dieu, c'est vivre pour Dieu. Est-ce que tu vis pour Dieu? Beaucoup de choses sont parfois bloquées parce que nous ne servons pas Dieu, parce que cette délivrance que nous recevons du Seigneur a pour objectif nous amener à le servir. Ça, c'était une parenthèse. Nous revenons sur notre thème d'aujourd'hui. Il est écrit au verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Qu'est-ce que Dieu dit par là? Je suis conscient que si je n'agis pas puissamment, vous ne serez pas délivrés. Le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir. Et je devrais agir avec puissance en faisant des prodiges. Lui-même, il décrit la scène. Il dit, je tendrai ma main, au verset 20, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Donc, quand est-ce que le Pharaon, l'Égypte, va laisser aller les enfants d'Israël? Quand le Pharaon et l'Égypte allaient subir des graves dommages, au point où, pour comme être soulagés quelques instants, ils vont être obligés de lâcher les enfants d'Israël. Or, nous savons, frères et sœurs, que notre cas à nous, les humains, sauvés par Jésus, ressemble à l'Égypte, à l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte. Il y a un parallèle entre le salut que Jésus donne à tout humain et la délivrance que Dieu a donnée aux enfants d'Israël en Égypte. Si Dieu dit à Moïse que ce ne sera pas facile, Pharaon ne va pas céder facilement. Pour qu'il cède, je serai contraint, moi, Dieu, de faire des miracles, de faire des prodiges, de faire des exploits, de manifester une grande puissance pour que Pharaon puisse céder. Dieu est conscient que ce n'est pas facile que Satan lâche un humain. Lorsque le mal tient un humain, ce n'est pas facile de le sortir des griffes du diable. Le Seigneur est conscient, il en parle à Moïse. Il dit, en Égypte, ça ne sera pas facile que vous sortiez. Pharaon va empêcher de toute manière. Mais moi aussi, je vais agir avec puissance. Dieu est conscient qu'il doit faire des grands prodiges pour sauver ne serait-ce qu'un seul homme. Vous souvenez du verset qui dit « Il y a de la joie au ciel lorsqu'une seule personne est sauvée. » Il y a de la fête au ciel lorsqu'une seule personne est sauvée. Parce que sauver une seule personne, ce n'est pas facile. Dieu emploie des moyens extraordinaires que nous ne voyons peut-être pas. Mais il emploie des moyens puissants pour sauver une seule personne. C'est pourquoi il y a de la joie. Moi, je vois mal. Vous savez, il y a des matchs où on 12 à 0. Bien aimé, le 11e but dans ces matchs-là ne procure pas une vraie joie. Le 10e but ne procure pas une vraie joie. Mais il y a des matchs où vous êtes 2 à 2. 2 buts contre 2. Et puis à la dernière minute, quelqu'un marque ce seul but-là. Est extrêmement important. On a vu des gens sauter à partir des gradins pour se réjouir à cause d'un but, parce que le but était très important, très difficile à obtenir. Et pourquoi il doit y avoir de la joie au ciel lorsque une seule personne se convertit? Parce que ça n'a pas été facile. Parce qu'il y a eu du boulot, il y a eu du travail. C'est pourquoi après la conversion de la personne, Dieu lui-même est dans la joie. Dieu est conscient, bien-aimé, que c'est difficile quand le diable tient quelqu'un de lâcher prise. C'est pourquoi il va employer des grands moyens. Et vous savez, en Égypte, il y avait un autre problème. Le problème plutôt était différent. En ce sens que Dieu n'avait qu'à faire des miracles en frappant Pharaon pour briser Pharaon. Mais notre cas est plus complexe encore. Pourquoi? Parce que nous avons notre libre arbitre. Donc Dieu doit jouer avec ça. Il doit jouer avec notre libre arbitre et en même temps faire des miracles pour étouffer, pour faire céder le diable. C'est plus difficile que sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Puisque les enfants d'Israël, ils avaient réussi déjà à les convaincre. Ils souffraient tellement qu'ils ont crié à Dieu. C'est pourquoi, au moment où il est libéré, au début, ils ont fait des problèmes, mais ensuite, ils se sont laissés être libérés par le Seigneur. Mais le problème avec nous, non seulement il y a le diable à attaquer, à lier, à frapper, il y a nous-mêmes à convaincre. Et c'est un travail immense de convaincre un humain. Les humains sont compliqués. Ils se croient intelligents. Ils se croient forts. Il n'y a pas que le diable qui agit dans l'homme. Il y a l'homme lui-même, pécheur, qui se croit fort, qui se croit plus grand que Dieu. Donc Dieu a double travail quand il faut sauver un homme. Il y a le travail sur l'homme lui-même. Il y a le travail contre le diable. Et ce qui fait que quand l'homme cède, le diable ne peut plus résister. Et Dieu emploie les grands moyens et le diable lâche. L'homme est libéré, l'homme vient à Jésus et il y a la fête au ciel. Amen. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple qu'un homme soit sauvé. Il y a beaucoup de travail et le plus grand travail a été accompli il y a plus de 2000 ans. À la croix, là où Jésus-Christ a souffert. Le Fils de Dieu a dû venir du ciel, descendre sur la terre, côtoyer les humains, vivre dans la chaleur, dans la saleté physique. Mais lui qui était 100% pur, il devait vivre aussi. Au milieu des humains sales spirituellement. Jésus a vécu tout cela pour que nous ayons la possibilité d'être sauvés. Le travail fut immense. Et dans l'épître de Pierre, il est écrit que les anges contemplent l'évangile, ils ne comprennent pas comment le Fils de Dieu peut descendre sur terre. Ils ne comprenaient pas le lien, bien-aimé. Vous savez, beaucoup d'entre nous ne sont pas vraiment habitués à la gloire. Mais quand vous savez ce que c'est que la gloire, il suffit d'être proche des grands hommes de ce monde. Vous allez comprendre c'est quoi la gloire. Vous allez comprendre que pendant que vous vous faites la queue pour faire quelque chose, eux, ils ne font pas la queue. Eux, ils passent, salon d'honneur. Approchez-vous, vous allez comprendre c'est quoi la gloire. Et Jésus était dans une gloire plus grande. Vous imaginez, quand j'étais au Maroc, le roi du Maroc, lorsqu'il devait visiter la ville de Fès, aujourd'hui, comme je l'ai dit, un autre jour, lorsque nous recevons une personne que nous estimons importante, nous nettoyons bien la maison, nous sortons les meilleurs couverts, nous mettons la meilleure nappe, mais c'est juste une maison qui est entretenue. Mais vous imaginez quand le roi du Maroc quitte la capitale Rabat pour venir à Fès, les rues sont nettoyées et il y a des drapeaux. On met des drapeaux sur les rues principales. Les rues sont nettoyées. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Nous, on nettoie les maisons, mais pour lui, les rues sont nettoyées. Mais il faut savoir qu'il ne va même pas marcher à pied. Hein. Mais les rues sont balayées, nettoyées, pour que ses voitures à lui passent. Bien-aimé, quand vous observez de telles gloires, imaginez que cet homme-là, maintenant, se retrouve en train de faire le docker au port, en train de porter des sacs, de faire passer les sacs du bateau à un camion, bien-aimé. Imaginez que vous voyez ça. Donc c'est pourquoi les anges ne comprenaient pas ce que Jésus était venu faire ici sur terre. Bien-aimé, il y a des choses, on peut te dire, mais tu ne comprends pas. Mais oui, mais il est venu sauver, mais on ne comprend pas pourquoi lui doit venir. Mais attends, lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, lui, auprès duquel aucun ange ne pouvait s'approcher, pour le rivaliser avec lui. Mais il le voit venir sur terre, s'humilier, être frappé, prendre la place des humains. Et il a pris nos péchés sur lui, à la croix. Il a été sacrifié à notre place. Voilà le grand travail, immense travail, que je ne pourrai jamais expliquer comme il faut. Puisque si les anges eux-mêmes ont du mal à comprendre, comment moi je peux comprendre ça? Je ne peux que en parler avec... les révélations que Dieu peut donner, bien-aimés, mais c'est le grand travail que Dieu a fait pour nous sauver. C'est un très grand travail. Bien-aimés, vous vous imaginez ce roi de gloire boire l'eau qui sort du puits. Vous vous imaginez jeûner 40 jours dans le désert, tout ça pour toi et moi. Alors comment ne pas être reconnaissant envers Dieu? Lorsqu'on se rend compte de ce qu'il a fait pour nous sauver. Dieu a utilisé des grands moyens sur lui-même pour nous sauver. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui a compris tout ça, il a dit, « Je fais tout désormais à cause de l'Évangile. Je fais tout pour Dieu. Je renonce à moi-même. » Il a compris ce que Jésus a fait pour lui. Être chrétien bien-aimé, ce n'est pas connaître beaucoup de choses. Ce n'est pas être spécialiste des versets bibliques. Ce n'est pas venir tous les jours dans des bâtiments qu'on appelle l'église. C'est comprendre ce que Jésus a fait pour toi. Dieu a employé des grands moyens. Et quand tu saisis ça, tu n'es plus la même personne. Les gens pourront toujours parler, critiquer. Mais la reconnaissance que tu as en toi est plus grande que toutes les critiques, que toutes les souffrances. Paul a dit de toute façon, je suis mort, Galates 2 au chapitre 20, je suis mort, si je vis pour Christ. Il a compris ce que Dieu avait fait de grand. Ça c'est la part de Dieu, côté Dieu. Mais bien aimé, convaincre un homme, ce n'est pas facile. Les hommes sont compliqués. Il est écrit dans Jérémie 17, le cœur de l'homme est tortueux. Il y a des gens qui... parfois, au courant de leur vie, votent pour cinq personnes, ils changent toujours pour cinq parties différentes, ils changent. Les hommes sont compliqués. Pour transformer le cœur d'un homme, c'est du travail. C'est du travail. C'est la préparation. Dieu crée des circonstances. Il crée des événements. Il t'a visé. Il s'occupe de ton entourage. Il prépare des rencontres pour que finalement tu puisses croire en lui parce qu'il veut te sauver. Dieu prépare toutes choses. C'est une affaire de longue haleine. Le salut d'un homme, Dieu prépare les temps et les circonstances. Il n'y a pas de hasard. Quand on se retrouve sauvé, ça veut dire que le travail de Dieu a abouti. C'est du boulot, c'est du travail. Vous imaginez, il y a des humains qui se croient tellement, tellement forts qu'ils estiment qui n'ont pas besoin de Dieu. Mais le grand problème, c'est que leur intelligence, leur force dont ils semblent se targuer, ne leur a pas montré le cas de Mohamed Ali, le cas de Michael Jackson, le cas de Whitney Houston. Bien-aimé, moi, je n'ai jamais compris comment quelqu'un qui se dit intelligent n'arrive pas à utiliser les événements du passé pour se construire un avenir. Donc, il n'est pas intelligent. Parce que quand nous, on était à l'école, il y a ce qu'on appelait la déduction. La déduction, c'est utiliser des faits, des paramètres présents pour trouver une relation dans l'avenir. C'est ce qui fait d'ailleurs que l'homme est plus intelligent que les animaux. Mais comment, après avoir vu tous ces gens-là, gagner des millions, quelqu'un qui a vendu 170 millions d'albums, comment, après avoir vu tous ces gens-là, gagner des millions et se retrouver endetté, les gens ne comprennent toujours pas que l'argent, c'est rien. Il y a un problème. Vous comprenez que le problème de l'homme est plus grave qu'un problème d'intelligence. Parce que si vraiment il était intelligent, il aurait tiré les leçons de tous les échecs qu'il voit autour de lui. Quand nous voyons la vie de Mohamed Ali, à 42 ans, Parkinson. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il a plus de 70 ans. Aujourd'hui, il a, oui, je crois, plus de 70 ans. Donc, il a vécu plus longtemps dans la maladie que dans le succès. Mais quand, si on est vraiment intelligent, on doit comprendre tout ça facilement. Mais il est écrit ceci dans 2 Corinthiens 4, 4. Nous allons lire 2 Corinthiens 4, 4. À partir du verset 3 plutôt, 4, 3. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Alors, qu'est-ce qui est écrit ? Si les gens se perdent, c'est parce que le diable a voilé leur intelligence. Parce que c'est notre intelligence humaine suffit pour croire en Dieu. Elle suffit pour nous donner de l'humilité et nous approcher de Dieu parce qu'il y a des évidences. Mais pourquoi ce qui est évident devient compliqué? Parce qu'il y a le travail du diable de voiler l'homme. Il y a le travail du diable de voiler l'homme. Je me souviens, une sœur m'a dit, je suis parti évangéliser une dame qui se disait catholique. Je lui dis, vous savez la formule qu'on a souvent de dire, Mais après votre mort, vous irez où? Et la dame lui donne le nom d'une ville, je crois Saint-Marc. Mais j'irai à Saint-Marc à côté de mon mari. Oh, notre sœur dit, mais non, vous irez où? Après la mort? Mais je vous l'ai déjà dit. J'irai à Saint-Marc dans le caveau à côté de mon mari bien-aimé. Vous savez, il y a des choses. Vous dites, mais comment elle ne comprend pas ma question? Mais elle dit, mais j'ai compris la question, mais j'irai dans le tombeau à côté de mon mari. Bien, mais vous imaginez le travail qu'il y a. Ce n'est pas facile d'amener quelqu'un à Dieu. Il y a un travail immense. Est-ce que c'était ça la question? Parce que la personne est tellement voilée, tellement bloquée, qu'elle ne s'imagine pas la vie après l'éternité. Pourtant, c'est dit catholique. Mais si tu es dans une religion, c'est parce que tu cherches l'éternité. Parce que si on ne cherche pas l'éternité, je ne vois pas pourquoi on va être dans une religion. Mais dis non, je serai dans le tombeau, à côté de mon mari, bien-aimé. Son mari qui est déjà devenu poussière. Les 1000 pattes circulent sur son corps, bien-aimé. Mais tout ça, comment ils ne peuvent pas voir ça? Le diable a bloqué l'intelligence de beaucoup de gens. Lorsque nous voyons à la télé des gens dont on disait d'eux qu'ils s'aimaient à la folie, ils divorcent. Mais beaucoup ne réfléchissent pas pour comprendre que ce n'est pas le mariage qui est la fin de toute chose. C'est Dieu qui a la solution de toute chose. Non, il n'y a même pas cette réflexion pour dire, mais tiens, la chose sur laquelle je me reposais n'est pas fiable. Même si on ne croit pas encore en Dieu, commencez déjà à reconnaître que les choses sur lesquelles on se repose ne sont pas fiables. Mais les gens ne voient pas ça. Ils sont voilés par le diable. Ils sont ce que la Bible appelle fous. Oui, ils sont fous. Les choses sont simples, mais ils ne voient pas cela. Croire que l'homme vient du singe, c'est de la folie. Vous vous imaginez tout ce qu'on voit là puisse venir du hasard. Comment on peut en arriver à croire en cela? En réalité, c'est les démons, les mauvais esprits qui poussent les gens à croire en de telles choses. Comme les mêmes mauvais esprits ont poussé les gens à suivre Hitler. Les mêmes mauvais esprits ont poussé les gens à suivre Staline, à suivre Napoléon dans des bêtises. Les mêmes mauvais esprits continuent à travailler pour perdre l'homme, l'amener à ne pas croire en Dieu. Et c'est du travail que Dieu fait pour s'occuper de nous parler, de créer des circonstances, s'occuper aussi de détruire les œuvres des ténèbres. Donc autour de l'homme, Dieu fait un travail. Mais le problème, c'est que Dieu ne peut pas aller loin dans son travail si l'homme l'en empêche. Parce qu'il a créé l'homme avec le libre arbitre. Donc, il faut qu'il y ait une petite collaboration de l'homme. Et même cette petite collaboration de l'homme est difficile à obtenir parce que l'homme se croit lui-même Dieu. Il est animé du péché d'Adam. Il se croit lui-même Dieu. C'est ça la réalité. Et Dieu fait un travail immense jusqu'à ce qu'un jour, vous et moi, on lui a dit, oui, on a dit oui. Seigneur, je cède, je capitule. Maintenant, je te suivrai toute ma vie. J'ai compris que l'argent n'était rien. J'ai compris que moi-même, je n'étais rien. On a vu des gens, vous savez, quand on va dans certaines maisons, vous voyez la photo de quelqu'un quand il avait 18 ans, comment il était jeune, beau, elle était jeune, belle. Mais après, vous vous retrouvez à 84 ans, 90 ans, ce n'est plus la même personne. Alors quand on voit tout ça, on doit s'humilier, comprendre que Dieu seul est grand. Et ce travail-là, pour amener l'homme à cela, bien-aimé, c'est du boulot. Dieu fait beaucoup parce que le diable s'accroche. Le diable a une grande puissance. Là où ça devient difficile pour Dieu, ce n'est pas frapper le diable. Ça, ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de convaincre l'homme. Et ce mélange-là détruit les œuvres du diable. Et convaincre l'homme, c'est quelque chose qui prend beaucoup et qui demande beaucoup à Dieu. Dieu le dit dans Exode, je vais frapper avec puissance pour que Pharaon vous lâche. Et pour que le diable nous lâche, Dieu a frappé avec puissance, sinon il ne nous aurait pas lâché. Maintenant, la question du jour, c'est quoi? Est-ce que le diable est mort? Il n'est pas mort. C'est un esprit. C'est un esprit. S'il a fallu à Dieu beaucoup de travail pour nous arracher de ses griffes, puisque le diable n'a pas changé, c'est le même esprit. Au contraire, avec son réseau grandissant, il devient de plus en plus fort par rapport à lui-même, pas par rapport à Dieu, par rapport à lui-même. Il a grandi sa puissance. Pensez bien que, bien-aimé, pour nous maintenir en lui, Dieu va produire encore des efforts et des efforts. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Si Dieu a usé de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour nous arracher des griffes du diable, il va user des mêmes efforts, sinon plus, pour nous maintenir en lui, pour nous maintenir dans notre salut. Notre enseignement, c'est de dire à chacun de nous, le diable qui te tenait autrefois, il n'est pas mort. Il cherche avec la même hardiesse, avec la même colère, avec la même haine, il cherche à te récupérer. Et encore, il est plus en colère qu'avant. Il est plus en colère qu'avant parce qu'avant, tu étais maîtrisé par lui. Il n'a fait pas besoin de manifester une grande colère. Maintenant, tu es devenu carrément son ennemi. Maintenant, on lui a arraché quelque chose. Pourquoi les gens deviennent esclaves de la loterie, du tiercé, ces choses-là? Parce qu'ils ont perdu. Il a perdu 100 euros, il se dit, il faut que je récupère les 100 euros. Il perd encore 200 euros, il dit, il faut que je récupère 300. Il perd encore, il faut que je récupère. Donc il y a une colère, mais comment on a pu m'avoir? Et le diable est dans cette colère-là. Il se dit, mais comment cet homme m'a été arraché? Nous lisons dans Exode 14. Exode 14. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Donc les enfants d'Israël, c'est lui-même qui avait donné l'ordre, mais bon, il était tellement dépassé par la puissance de Dieu. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus le service? Voilà ce que le diable se dit. Mais qu'est-ce que j'ai fait en lâchant telle personne? Je ne pourrai plus profiter de la personne. Je ne pourrai plus la faire fumer. Je ne pourrai plus la faire mentir. Non, mais or, le diable et les mauvais esprits vivent du mal qu'ils font chez les gens. Et quand on les prive de quelqu'un, ils sont comme affamés, comme assoiffés, ils sont en colère. Et là, il dit, mais qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Verset 6. Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Est-ce que les enfants d'Israël étaient armés? Non. Était-il besoin que Pharaon prenne tous ces chars? Et tous ces combattants, non. C'est la colère, puisqu'on lui a pris quelque chose. Donc il s'est armé d'une plus grande force, de toute sa force pour venir récupérer sa chose. Verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer. vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Bien-aimés, quand ça commence à chauffer dans la vie chrétienne, beaucoup disent au fond, au fin fond d'eux, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris de devenir chrétien? Maintenant, les bêtises que je faisais autrefois sont devenues des épines sur ma peau. Qu'est-ce qui m'a pris de devenir chrétien? Maintenant, je dois aller demander pardon à quelqu'un de moins âgé que moi. Ben oui. Qu'est-ce qui m'a pris de devenir chrétien? Il y a un frère qui me disait, moi, quand j'étais à l'école, tout ce qui était bagarre, tu ne me voyais pas là-dedans. Je n'aimais pas les confrontations, les bagarres, les luttes, je n'aimais pas ça. Et quand je me suis converti, le 31, on m'invite par une famille chrétienne. J'entends, nous sommes l'armée du Seigneur. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Le frère dit, mais moi, déjà, j'étais dans le monde, je ne me battais pas, maintenant, on me parle d'une armée. Donc, il y en a qui n'aiment pas entendre parler qu'il y a une armée, nous sommes dans un combat, il y a des démons, il y en a qui ne veulent pas de ça. Mais qu'est-ce qui nous a pris? Dans quoi nous sommes? Mais bien-aimés, quand tu étais non-chrétien, tu étais esclave, tu ne pouvais pas t'en rendre compte. J'ai souvent parlé, imaginez le lion qui fuit un jardin zoologique. Il ne va pas comprendre que le gardien qui lui donnait la nourriture cherche maintenant à le tuer. Quand il était dans le jardin, dans sa cage, ben on lui donnait la nourriture par les gardiens, par les, voilà, les gens en tenue. Il était l'idole du jardin. Mais qu'il s'enfuit du jardin, qu'on dise qu'il y a un lion dans la rue, il ne va pas comprendre que les mêmes gardiens qui étaient gentils envers lui vont chercher à le tuer. C'est ça la réalité. Vous imaginez la vache. Voit chaque jour, on l'amène brouter, on la soulage en lui sortant du lait. Moindre maladie, le vétérinaire arrive, la vache se croit au paradis. Puis un jour, tiens, on l'amène dans un camion quelque part. Et puis, elle voit une autre vache déjà abattue là-bas. Elle dit, mais non, ça c'est une blague, je crois qu'elle était malade, moi. Mon maître m'aime beaucoup. Oh, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'on était en train de la préparer à l'abattage. Et c'est ce que les humains ne savent pas. Ils croient que le diable est gentil avec eux. Ils croient que le monde est gentil avec eux. Or, ils sont préparés à l'abattage. Maintenant, quand ils viennent maintenant au Seigneur, oh, mais c'est quoi encore ces chants-là, l'armée du Seigneur? Dieu a une armée. Mais non, mais non. Moi, je crois que avec Dieu, c'est la paix. C'est la tranquillité. Non, mais on a un ennemi. C'est la paix parce que Dieu est avec nous. Il nous protège. Mais on a un ennemi. Celui duquel on nous a arrachés, il va continuer à se battre pour nous récupérer. Et il va se battre plus violemment qu'avant. Parce que là, il est en colère, on nous a pris. C'est pourquoi, bien-aimés, prions pour les gens qui ont rechuté ou bien qui ont chuté, qui ont rétrogradé, parce que nous sommes dans un vrai combat. Il y en a qui peuvent tomber, qui peuvent chuter. Au lieu de se moquer ou de les condamner, nous devons prier pour eux. Parce que le diable redouble de violence. Parce qu'on sait qu'on lui a pris ce qui était à lui. Et là, le pharaon a redoublé de violence. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël, donc, se plaignent. Comme on l'a dit, beaucoup de chrétiens se plaignent. Ah, c'est trop dur. Ah, je ne m'y attendais pas. Ah, trahison. Ah, on ne fait que gémir. Et surtout, quand on a l'impression que le diable a gagné, vous savez, il y a des chrétiens qui supporteraient bien que Dieu leur apparaisse clairement, leur dise, bon, cette épreuve, c'est moi. Ah bon, là, d'accord. Mais il y a parfois, Dieu n'apparaît pas pour nous dire, cette épreuve, c'est moi. Alors, on s'imagine, ah, donc le diable m'aurait tapé. Mais pourquoi Dieu a laissé alors? Donc, on commence à réfléchir. Mais comment? Surtout que les autres sont là pour dire peut-être qu'il a péché. Donc, il y a les autres qui sont en train de faire le journaliste. Et toi, tu es là. Tu dis, mais... Et on aimerait tant que Dieu lui-même paraisse pour dire, non, non, ça, c'est moi qui ai fait ça, donc sois calme. Lui aussi ne fait pas ça. Donc, on se retrouve en colère, en train de dire, mais c'est comment? Pourtant, c'est écrit tel verset. Toute âme forgée contre nous est sans effet. Pourtant, c'était ceci. Moi, je suis un chrétien. Comment je me retrouve à l'hôpital? Pourtant, c'est écrit ceci, c'est écrit cela. Et il y en a qui créent des doctrines selon lesquelles un chrétien ne peut pas tomber malade. Parce qu'on a l'impression que c'est le diable qui prend le dessus. Bien-aimés, revenons à toute la parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient du Seigneur. Il y a aussi une parole qui dit tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc on doit se dire que ça vient du diable, que ça vient de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que Dieu est avec moi. Parce que moi, je lui ai donné ma vie. Maintenant, Seigneur, si j'ai fait un péché, montre-le-moi, je demanderai pardon, je me repentirai. Voilà, bien-aimé. Et quand on se repent, on se dit, Dieu est avec moi, il s'occupera de cette affaire. Amen. Et les chrétiens ne comprennent pas pourquoi. Vous savez, l'apôtre Pierre aussi en parle. Il dit, mais pourquoi vous êtes déstabilisé par rapport à la fournaise qui s'abat sur vous? Mais c'est écrit que tous ceux qui veulent servir Jésus-Christ pieusement, 2 Timothée 3:12, seront persécutés. Parce que nous devenons étrangers à ce monde, nous devenons ennemis du diable et il va tout faire pour nous éliminer, tout faire pour nous ramener à lui, tout faire. Soit nous ramener à lui, soit nous éliminer. C'est ce qu'il va faire. Mais dans tout cela, il est écrit dans Romains 8, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais nous devons prendre conscience de la colère du diable. Nous devons prendre conscience qu'il ne lâchera pas tant que Dieu ne fait pas, n'agit pas avec puissance, avec miracle. Nous devons comprendre ce que Dieu lui-même dit. Je sais que le Pharaon ne lâchera pas. Il faut que je fasse quelque chose d'extraordinaire pour qu'il lâche. Ben, aujourd'hui, c'est ce que nous allons dire à Dieu. Nous savons que le diable ne lâchera pas nos familles. Nous savons que le diable ne lâchera pas nos vies comme ça. Nous savons qu'il ne lâchera pas mes études. Je sais qu'il ne lâchera pas ceci, cela. Alors, mais je sais aussi que Dieu, tu as la puissance de le faire lâcher. Amen. Alors, nous allons nous mettre dans la prière pour cela. Et verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Bien-aimés, il y a des moments où on doit juste garder le silence. Quand on voit que nos raisonnements nous mènent beaucoup plus aux pleurs et à la tristesse, faisons un effort, gardons silence. Parce que vaut mieux garder silence et que Dieu nous relève pas à pas plutôt que raisonner et s'écarter de Dieu. Donc à un certain moment, quand les choses nous dépassent et que les raisonnements nous amènent à la perte de la foi, gardons plutôt silence. Il dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Nous connaissons la suite. Ils sont entrés pour suivre les enfants d'Israël dans la mer qui a été ouverte en deux. Eh bien, quand le dernier enfant d'Israël est sorti de la mer, Dieu a ramené les eaux et toute l'armée de Pharaon a été liquidée. Toute l'armée de Pharaon a été éradiquée par la puissance des eaux. Bien-aimés, Dieu sait qu'il y a toute une armée démoniaque composée parfois d'humains qui se sont laissés séduire par le diable. Cette armée démoniaque est contre nous parce que nous sommes à lui. Il nous a libérés une fois des griffes du diable, mais il s'emploie encore à agir pour nous maintenir dans son salut. Ce qu'on vient de voir, il les avait sortis d'Égypte, mais Pharaon a dit non, pas question, je vais aller récupérer. Alors il est venu plus fort qu'avant. C'est pourquoi souvent, certains d'entre nous s'étonnent que certaines tentations, même parfois qu'ils subissaient dans le monde, reviennent plus fortes qu'avant. Le diable vient plus fort qu'avant. Mais Dieu permet cela pour nous donner une éclatante victoire. Gardons silence. Souvenons-nous des paroles du Seigneur. Il nous donnera la victoire. Il ne faut pas dire comme les enfants d'Israël. Mais Moïse, qu'est-ce qui t'a pris de nous sortir? Nous ne devons pas dire à Dieu, qu'est-ce qui t'a pris de me sauver? Non, nous devons nous repentir et dire à Dieu, nous croyons. Comme tu as fait pour l'Égypte, les enfants d'Israël en Égypte, tu le feras pour nous aujourd'hui. Tu nous sauveras encore. Tu nous as libérés de Pharaon. Il nous a poursuivis, tu nous as sauvés encore. Souvenez-vous de la vie d'Israël par la suite. Ça a été toujours une vie entourée des ennemis. Parce que le diable voulait toujours étouffer ce peuple, tuer ce peuple. Parce que s'il éliminait ce peuple, c'est comme s'il éliminait Dieu de la terre. Il utilisait le libre arbitre de l'homme pour pouvoir combattre Dieu à travers l'homme. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Il fait tout pour notre élimination. Souvenons-nous de l'épisode d'Esther. Il a voulu éliminer tout le peuple juif par un décret royal. Il a toujours fait ainsi. Quand on entend Ahmadinejad parler, c'est l'élimination d'Israël. C'est toujours ça que l'ennemi veut. Et il veut éliminer chaque chrétien autant qu'il veut éliminer Israël. À nous, bien-aimés, de prendre conscience de la hargne, de la colère, de la haine du diable pour dire, Seigneur, nous réclamons des miracles. Nous réclamons ta puissance. Dans Actes des Apôtres, quand les apôtres ont été fouettés parce qu'ils prêchaient au nom de Jésus-Christ, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, ce que nous vivons, c'est écrit dans la parole. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi toutes les nations se liguent contre mon oint? Parce que quand les gens se liguent contre nous, en réalité, ils se liguent contre une seule personne. Ils se liguent contre Jésus qui est en nous. Pourquoi toutes ces nations se liguent contre ton oint? C'est écrit. Ce que nous vivons, nous comprenons que c'est écrit. Mais Seigneur, nous te demandons de nous remplir du Saint-Esprit, de nous remplir de ta puissance, que tu fasses des prodiges, des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. La Bible dit que les murs ont tremblé et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils sont repartis au combat, ils sont repartis au travail. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimés. Nous avons besoin que Dieu fasse des prodiges, manifeste sa grande puissance pour que malgré les difficultés, malgré la colère des ténèbres, de force des ténèbres, nous soyons plus que vainqueurs en paix et dans la joie. Ne sous-estimons pas le diable, ne sous-estimons pas sa colère, mais en même temps, faisons confiance à la puissance de Dieu qui a vaincu cette même colère, qui a vaincu cette même puissance pour nous sauver. Ben, il vaincra encore pour nous maintenir dans le salut, bien-aimés. C'est ça la réalité. Certains se fatiguent parce que la pression devient de plus en plus grande sur les chrétiens. Vous imaginez même le répondeur de Free, c'est 666. C'est fatigant de se sentir comme entouré par le diable. C'est fatigant. Je dis, mais c'était moins cher, tout le monde a plongé là-bas et puis... Tu veux faire le numéro 666, le diable te dit, vas-y mollo. Mais bien aimé, ce n'est pas facile. Il y en a qui risquent de faire le numéro les yeux fermés, bien aimé. C'est fatigant. C'est fatigant d'avoir l'impression que c'est le diable qui l'emporte. Quand on voit, mais tiens, celui qui risque de gagner les élections, il est pour le mariage homosexuel. C'est fatigant de voir tout ça. Mais bien aimé, c'est écrit, le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Nous allons parler des solutions, bien-aimés. première solution, c'est la parole de Dieu. Souvenons-nous de toute la parole. Tout ce que nous vivons est écrit. C'est écrit. Et dans cette même parole, il y a des conseils qui nous sont donnés pour que nous tenions bon, pour que nous retrouvions des forces pour aller de l'avant. Deuxièmement, prions pour la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit renouvelle nos forces, qu'il nous donne l'envol de l'aigle, comme c'est écrit dans Isaïe 40, celui qui se confie en l'Éternel. Il prend l'envol de l'aigle, il marche sans se lasser, il court sans se fatiguer. Que le Seigneur renouvelle nos forces. Prions pour cela. Et troisième moment pour aujourd'hui, songeons à prier pour tout ce que nous remarquons comme étant des obstacles par rapport à notre marche globale en tant qu'Église, en tant qu'humain, en tant que chrétien. Songeons à prier dans l'esprit des œuvres puissantes, des œuvres miraculeuses du Seigneur. C'est écrit dans Jean 16, je crois au verset 24, « Jusque-là, vous n'avez pas demandé. » Gédéon, quand on lui a donné la mission de libérer les enfants d'Israël, il a dit à Dieu, « Oh Dieu, nous avons entendu tes exploits que tu as manifestés pour libérer nos pères en Égypte, mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. » Ayons le réflexe de rappeler à Dieu ce qu'il a fait autrefois. De dire, mais Dieu, c'est toi, moi j'étais dans la débauche, j'étais dans le péché, c'est toi qui m'as libéré. Maintenant tu m'abandonnes, tu veux que je tombe encore? Et on prie, on intercède, on crie à Dieu. Mais Dieu, c'est toi qui avais sauvé Daniel de la fosse aux lions. Nous avons besoin, bien-aimés, devant l'adversité, de faire des prières au niveau de Dieu et au niveau de l'adversité qu'il y a devant nous. Autour de toi, il y a des chrétiens qui demeurent touristes. Dans ton champ de vision, commence à les confier entre les mains de Dieu. Il y a du laisser-aller dans l'Église. Attaque cela dans la prière. Il y a des membres de famille qui ont du mal à se décider. Attaque cela dans la prière. Dans la ville, il n'y a pas de conversion. Attaquons cela dans la prière. Dans notre rue, comme dans notre rue ici, il y a un magasin, une boutique d'impudicité. Attaquons cela dans la prière. Ne nous lassons point. Je sais qu'on a déjà attaqué cette boutique-là, mais elle est toujours là. Mais nous n'allons pas lâcher prise. Nous allons attaquer toujours. Parce que c'est notre travail que de résister par la puissance divine, par la toute-puissance de Dieu. C'est écrit dans Éphésiens 6. Nous devons nous armer dans la prière pour attaquer ces choses-là. C'est le moment, bien-aimé, d'intercéder, de prier, parce que la situation devient de plus en plus difficile. Les choses qui nous choquent, qui nous outrent, nous devons maintenant attaquer cela dans la prière. Ainsi, bien-aimés, pendant un certain temps, à chaque culte, nous allons intercéder d'une manière globale, sans citer. S'il y a des gens qui sont au milieu de nous, on ne va pas citer leur nom par rapport à leur sujet qu'ils vont demander, mais nous allons prier. Par exemple, on peut prier pour quelque chose, pour une famille, et on sait que nos familles aussi connaissent la même chose. Mais nous allons prier parce que nous voulons souffler. Nous ne pouvons pas accepter d'être asphyxiés à tout moment, de sentir qu'on n'arrive plus à vivre sur terre, alors que Dieu n'a pas encore dit « c'est la fin ». On risque de se fatiguer avant le temps. Donc pour ne pas se fatiguer avant le temps, nous devons attaquer ce qui vient comme obstacle devant nous, qui veut que nous puissions nous fatiguer avant le temps. Nous allons servir Dieu dans la prière. Nous allons, bien-aimés, nous opposer aux forces des ténèbres. C'est en s'opposant à elles que nous pouvons respirer. Ce n'est pas en pleurant, en gémissant, en cherchant une sorte de délivrance exceptionnelle du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas éliminer le mal sur la terre. le mal sera éliminé une fois pour toutes au retour du Seigneur. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, le mal est toujours là. Et c'est à nous de combattre avec les armes que nous avons pour pouvoir respirer, pour pouvoir avancer. Et Dieu nous donnera la victoire. C'est cela, bien-aimés. Nous devons prendre conscience qu'il y a un vrai combat. Il y a une vraie lutte. Et le Seigneur est avec nous pour nous donner la victoire. Mais nous n'allons pas faire, nous ne devons pas faire comme les enfants d'Israël qui ont fui devant les géants de Canaan. Nous, nous disons, c'est Dieu qui nous a amenés à ce niveau. Nous avons l'impression, vous savez, ils ont fui, pourtant ils sont sortis quand même d'Égypte. Hein. Mais quand ils se sont retrouvés à moins fort qu'Égypte, mais puisque c'était des géants, ils ont eu peur. Eh bien, nous avons aussi l'impression, nous, que parfois nous nous retrouvons à des esprits, à des situations qui semblent plus dures que quand on était païen. C'est vrai. Parce qu'entre-temps aussi, il y a l'âge qui vient. Donc, plus le temps passe, plus certains problèmes que tu ne pouvais pas connaître quand tu as 10 ans, 12 ans, tu vas les connaître. Mais nous, on met ça, tout ça, dans le cadre de Dieu. Quoi. Ah, mais Dieu, mais non, il y a aussi l'âge. Voilà. Mais malgré tout, nous allons attaquer cela afin que nous voyons la main puissante de Dieu. En fait, la règle, c'est quoi? C'est que Dieu peut, par sa main puissante, nous frayer toujours des chemins. Dieu peut, par sa main puissante, nous mettre la paix. Dieu peut, par sa main puissante, parce qu'à la croix, Jésus a crié, « Tout est accompli !» Nous pouvons maintenant, par la main puissante de Dieu, vaincre. Et nous allons nous rappeler toujours de dire à Dieu d'intervenir par sa main puissante, comme il a dit aux enfants d'Israël, « Pharaon ne vous lâchera pas, je serai obligé d'utiliser les grands moyens. » Comme on dit en français, « Aux grands mots, les grands remèdes. » Donc le Seigneur va utiliser les grands moyens. Nous allons faire appel aux grands moyens du Seigneur face aux grands mots que nous trouvons devant nous. Et ceux qui seront conduits à nous déposer des sujets de prière, vous les écriviez sur un papier et vous nous les donnez. Tout ce qui concerne l'Église, que ce soit l'Église locale, l'Église en général, que ce soit les cas des familles aussi, le problème du pays, le problème de la ville. Donc nous allons, tout ce qui peut être un obstacle pour l'Évangile, le comportement des chrétiens. Dans les églises, par exemple, il y a un frère qui m'a dit, dans leur église, ils ont interdit à quelqu'un de distribuer des tracts de publicité des politiques, mais la personne a osé quand même à la fin du culte de distribuer ça. Bien aimé, il n'y a plus de respect dans l'œuvre de Dieu. Les gens se moquent de Dieu, donc ils prennent... Non, quand on voit de telles choses, on doit dire, Seigneur, on est fatigué, parce que là, on ne te respecte même plus. Même dans la salle qui est louée pour toi, on ne te respecte pas. Donc, on doit prier pour tout ce que nous avons, qui nous donne l'impression que là, il n'y a plus le respect de Dieu. Donc, nous devons résister à tout ça, prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien sûr...